Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Voilà, pendant une heure, nous sommes ensemble sur l'antenne de Graphite. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite, hein, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé avec la rediffusion de cette émission le mardi matin à 10h. Et puis les podcasts, bien sûr, de toutes les émissions de Graphite sur le site graphite.net. C'est le 14 février aujourd'hui, alors c'est la bonne fête de tous les amoureux, de toutes les amoureuses. C'est aussi la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Voilà, on a choisi le 14 février pour ça également. Après tout, pourquoi pas ? Ce qui nous permet justement d'avoir des actions de sensibilisation un petit peu partout dans le monde pour ces cardiopathies congénitales. Le 14 février, au niveau de l'éphéméride, est vraiment une journée assez importante au niveau sciences et techniques. Il y a eu plein de choses qui ont été créées, découvertes ou qui ont eu lieu le 14 février. Donc, dans l'ordre chronologique, 1747, c'est la fondation de l'École nationale des ponts et chaussées à Paris. 1747 quand même. 1848, James Polk devient le premier président des États-Unis à être photographié dans son bureau en 1848. Alors, James Polk, personnellement, je ne connaissais pas ce nom en tant que président américain, mais voilà, il a été le premier à avoir eu son portrait. En 1876, Alexander Graham Bell dépose son brevet d'invention du téléphone. En 1876, quelques jours avant Elisha Gray, qui, elle, déposera le 7 mars 1876. Mais lui, c'est le 14 février, donc il passe avant. Et c'est pour ça que le nom de Bell est passé à la postérité, bien sûr. 1939, découverte du point le plus profond de l'océan Atlantique. C'est la fosse de Milwaukee en 1939. 1946, l'ENIAC, c'est le premier ordinateur à fonctionner. En 1946, ce premier ordinateur, c'est en Pennsylvanie que cela se passe. En 1978, donc maintenant un petit peu plus proche de nous, la première puce électronique inventée par Texas Instruments est brevetée en 1978. 1990, la sonde américaine Voyager 1 effectue un ensemble de clichés qui montrent 6 planètes du système solaire alors qu'elle se trouve à environ 6 milliards de kilomètres de la Terre. En 1990, l'exploration spatiale, là on dépasse les frontières de la Lune, bien sûr, et on va beaucoup plus loin dans le système solaire. Et en 1990, voilà, on a ces photos qui sont totalement fascinantes. 2001, deux astronautes américains effectuent la 100e sortie dans l'espace de l'histoire spatiale américaine au cours de l'assemblage du module Destiny sur la station internationale. C'était en 2001. Et enfin, le 14 février 2003, c'est la mort de Dolly, le premier mammifère cloné de l'histoire. C'est une brebis, on se souvient peut-être de cette brebis Dolly, qui est donc décédée le 14 février 2003. Donc il y avait pas mal de choses le 14 février. Naissance de Christopher Scholes, ou Scholes d'ailleurs, tiens j'ai un doute, il est né le 14 février 1819. Scholes, S-H-O-L-E-S, ou Scholes peut-être, Christopher Scholes, on va peut-être l'appeler Scholes d'ailleurs. Alors son nom ne nous dit pas grand-chose, mais ce qu'il a inventé, oui, c'est le clavier QWERTY qu'il va faire. Alors, dans les années 1860 à 1890, Christopher Scholes a déposé 15 brevets, parmi lesquels 11 concernent la machine à écrire. Le clavier QWERTY deviendra la norme de fait sur les machines à écrire des pays anglophones, bien sûr, et ensuite sur les ordinateurs. Alors même que Scholes a proposé une disposition améliorée dans le dernier brevet déposé avant sa mort. Pour la configuration des claviers des machines à écrire en QWERTY, il y a deux explications qui ont été avancées. La plus connue des hypothèses, c'est la configuration des lettres répond aux contraintes mécaniques de la première machine à écrire de Scholes parce que les touches correspondant aux paires de lettres les plus utilisées dans la langue anglaise, elles sont réparties de manière à éloigner le plus possible les marteaux qui les correspondent, ce qui va limiter les risques de blocage des tiges, c'est-à-dire qu'on va espacer les lettres qui fonctionnent deux à deux. Et on a donc au final ce clavier QWERTY. Il y a une hypothèse qui est nouvelle dans un article de 2011 qui considère que les premières machines à écrire ne souffraient pas des mêmes contraintes techniques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas nécessairement ces blocages de marteau, et la disposition des lettres aurait été fixée afin de faciliter le travail des télégraphistes, les premiers utilisateurs de la machine. Donc on ne sait pas précisément pourquoi le clavier QWERTY et puis aussi le clavier AZERTY que nous, francophones, utilisons plus souvent. Pourquoi c'est comme ça? Mais apparemment, voilà, on aurait quand même l'hypothèse la plus connue, en tout cas celle qui semble la plus réaliste, c'est qu'on a une disposition des lettres pour éviter d'avoir ces blocages de marteau à l'époque des machines à écrire. Maintenant, avec les claviers contemporains, on n'a plus de système de marteau qui se bloque, mais on a conservé bien sûr ce clavier AZERTY et QWERTY, donc QWERTY inventé par Christopher Sholes. Enfin, décès le 14 février 1744 de Sir John Hadley, astronome britannique du XVIIIe siècle, membre et vice-président de la Royal Society. Il a inventé l'octant. C'est un instrument qui permet, dans les observations astronomiques, de mesurer les angles depuis un navire malgré les mouvements du vaisseau. C'est un petit peu le précurseur du sextant, mais c'est l'invention donc de Sir John Hadley, décédé un 14 février 1744. Donc vous voyez, le 14 février, beaucoup de choses. J'ai une page entière d'éphémérides. Des fois, ça se résume à deux noms et deux inventions et c'est assez rapide. Mais là, j'avais une page entière pour ce 14 février. C'est dire que cette journée est assez importante et c'est tant mieux. Et puis encore, là, encore, bonne fête à toutes les amoureuses et à tous les amoureux. Au niveau de l'actualité, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ces émissions précédentes. Alors, j'ai tellement de choses que je ne sais même pas. En fait, il n'y a même pas de fil conducteur. Je n'ai pas, voilà, j'ai pas prévu de thématique précise, mais je voulais parler du rhume. Parce que c'est quand même assez d'actualité pour beaucoup d'entre nous depuis un certain temps maintenant. Hein, un nez qui coule et deux éternuements et puis plus rien. Pour certains, le rhume se limite à une gêne passagère et puis pour d'autres, la même infection peut déclencher une toux intense, une respiration sifflante, voire une véritable crise respiratoire. Eh bien, il y a une nouvelle étude récente menée à la Yale School of Medicine qui montre que cette différence, elle ne tient pas tant au virus lui-même qu'à la manière dont notre corps réagit dans les toutes premières heures. Les résultats ont été publiés il y a quelques semaines dans la revue Cell Press Blue qui montre que tout se joue très tôt au niveau de notre nez, bien avant l'intervention de notre système immunitaire classique. Le rhinovirus, c'est le virus principal responsable du rhume, qui est également le déclencheur des crises d'asthme. Et ce rhinovirus, il infecte d'abord les cellules qui tapissent les fosses nasales. Ces cellules, ce ne sont pas des globules blancs, mais elles disposent d'un système de défense rapide qu'on appelle l'immunité innée. Et leur arme principale s'appelle l'interféron. L'interféron, c'est une molécule qui va alerter les cellules voisines. Il va bloquer la multiplication du virus. Et lorsque la réponse elle est efficace, eh bien, l'infection elle reste très limitée. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de cellules au niveau du nez qui sont touchées, les symptômes sont légers et ça disparaît de façon presque spontanée. En revanche, si cette alerte précoce elle est faible ou elle est retardée, eh bien, le virus il a le temps de pouvoir se propager davantage. Et l'organisme compense alors par une réaction inflammatoire beaucoup plus agressive, responsable de symptômes plus intenses, c'est-à-dire une congestion sévère, une gêne respiratoire, voire une hospitalisation pour les personnes fragiles. Alors, la responsable de l'étude qui s'appelle Hélène Foxman, elle souligne « Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas seulement le virus qui détermine la maladie, il y a quelque chose dans le corps humain qui influence réellement l'évolution de la maladie. » Et pour comprendre ces mécanismes, les chercheurs ont recréé en laboratoire une espèce de muqueuse nasale humaine extrêmement réaliste qui va reproduire à la fois l'intérieur du nez, les voies respiratoires, à partir de cellules qui vont être capables de produire du mucus et aussi de produire des cils, parce qu'il y a des petits cils également qui existent à l'intérieur de notre nez. Et les chercheurs ont infecté ces cellules avec donc un rhinovirus. Puis ils ont bloqué volontairement certaines voies de défense. L'idée, c'était d'observer comment l'infection allait évoluer cellule par cellule. Et le constat, il est clair. Cet interféron, hein, cette molécule au départ qui alerte, si cet interféron y fait défaut, eh bien l'inflammation prend le dessus et devient elle-même délétère pour les voies respiratoires. Et ce phénomène est particulièrement préoccupant chez les personnes asthmatiques. Chez elles, un simple rhume peut suffire à déclencher une véritable crise respiratoire. Et donc, l'auteur de cette étude, explique... Nos expériences sur des organoïdes. Alors, les organoïdes, c'est le fait de reproduire en laboratoire certains organes. Donc là, on a compris que c'était au niveau du nez et des voies respiratoires. Nos expériences sur des organoïdes montrent qu'une réponse au niveau de l'interféron rapide des cellules infectées est extrêmement efficace pour stopper le rhinovirus, même en l'absence de cellules du système immunitaire. Ça veut dire que cet interféron qui doit agir vite, si c'est le cas, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas besoin d'avoir un système immunitaire performant par la suite. Et ces études, ces résultats ouvrent des perspectives concrètes. Plutôt que s'attaquer directement au virus, eh bien, il pourrait être plus efficace de moduler la réponse inflammatoire ou de renforcer les défenses précoces des cellules nasales. L'un des aspects très particuliers de cette étude a été de pouvoir observer des milliers de cellules travaillant ensemble et la manière dont elles interagissent pour lutter contre cette infection, qui est une infection courante. C'est ce que donc explique Hélène Foxman. À terme, ces travaux pourraient conduire à de nouveaux traitements, bien sûr, pour prévenir les exacerbations d'asthme, par exemple, qui sont déclenchées par ce rhinovirus. Alors, reste une question centrale. Pourquoi il y a certaines personnes qui produisent moins d'interférons que d'autres, d'où par la suite une réaction différente selon les personnes. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est lié à des maladies chroniques? Est-ce que c'est lié à l'environnement? Eh bien, les chercheurs poursuivent désormais leurs travaux pour essayer de percer ce mystère et peut-être rendre le rhume un peu plus équitable, entre guillemets, pour tous. Mais voilà, c'est pas nécessairement le virus qui fait la gravité du rhume, mais c'est ce qui se passe dans notre nez dès les premiers instants, dès les premières heures. Je crois, à ma connaissance, que c'est la première fois qu'on parle du rhume dans cette émission de Biotine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce rhume qui est, pour la grande majorité d'entre nous, quelque chose de commun, de banal, pas nécessairement de plaisant, je suis d'accord. Mais voilà, il y a quand même des études qui vont essayer un petit peu mieux de percer le mécanisme qui est mis en place pour pouvoir nous protéger contre ce rhume. Autre sujet que je voulais évoquer, c'est au niveau des énergies. Alors, je voulais évoquer déjà ça en janvier, j'ai pas eu le temps. Il y a un groupe de travail qui s'appelle le Think Tank Amber qui a fait une annonce assez fracassante et assez étonnante. Ils expliquent que l'énergie éolienne, donc l'énergie au niveau des vents, hein, c'est donc au niveau des éoliennes justement, et l'énergie solaire, eh bien, ces deux énergies ont pour la première fois permis de générer plus d'électricité que les énergies fossiles en Europe l'année dernière. Les énergies renouvelables ont en effet produit plus de la moitié de l'électricité dans les 27 pays européens l'année dernière. Parmi ces énergies plus propres, l'éolien et le solaire ont représenté 30% de la production électrique contre 29% pour la totalité des énergies fossiles. Et plus que jamais, l'énergie du futur, c'est le solaire, représente à lui seul 13% de la production d'électricité européenne avec une croissance fulgurante de plus 20% l'année dernière. Donc c'est vraiment des chiffres étonnants et des chiffres inédits en fait. Certains pays ont davantage progressé. Les champions de l'énergie solaire en Europe, ce sont la Hongrie, Chypre, la Grèce, l'Espagne et les Pays-Bas, ce n'est pas nécessairement que les pays du Sud. Et pourtant, la priorité de l'Union européenne en 2025 était de réaliser des économies sur les dépenses liées aux énergies. Alors, pourquoi les énergies renouvelables ont-elles fait un tel bond? Et bien justement parce que le plan d'action pour une énergie abordable de la Commission européenne a identifié avec justesse la cause profonde des prix élevés de l'énergie en Europe. Et en fait, les prix élevés sont liés à la dépendance aux combustibles fossiles. Ces combustibles, ils sont importés, ils sont donc coûteux. Et donc réaliser des économies, ça allait de pair un petit peu avec la transition vers les énergies renouvelables. Selon donc ce rapport, le charbon est en voie de disparition. Donc ce n'était pas nécessairement le véritable souci. En fait, l'énergie fossile la plus problématique en Europe, c'est désormais le gaz au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre comme au niveau de son coût. Et donc voilà, le charbon perd de vitesse et donc est en voie de disparition selon le rapport. Mais alors c'est le gaz maintenant qui reste l'énergie fossile qui est la plus utilisée. Mais voilà, c'est assez intéressant parce que c'est déjà historique. Ce sont deux énergies renouvelables qui surpassent les énergies fossiles. fossiles en Europe, avec donc l'éolien et le solaire. On est en train de vivre aussi une transition énergétique qui est assez d'envergure, et donc c'est, voilà, c'est peut-être un point de bascule qui a été identifié avec cette année 2025. Vous êtes bien sur l'antenne de Graphite. On feuillette comme ça ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. Et puis on écoute aussi un peu de musique, bien sûr. C'est tout l'intérêt de cette émission Biotine. On va écouter maintenant, tiens, Bonbon Vaudou, je ne connais pas, je découvre en même temps que vous sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
M'y réveille là, moi, les gadiens. M'y trappe mon grec, pour faire café. M'y rando sous mon bac de l'eau. Mon corps les raides, gagne puis bousé. Comme gazibine, l'éléphant. Yo garde à moi comme un zézer. M'y bégaye mon tête, les toutes rousses. Moi, elle était molle dans mon causé. Mais comment ça, où la rampe là? Le pote là, l'était bien taqué. La lyrie avec moi, elle y dit. Larga moi, donne à moi, nougat. Larga moi, donne à moi, nougat. Ça décide mon téléphone, mi fait l'odyssée et mi crie. Mi arrête au humble aribidous, un éléphant les dans la douce. La loi dit à moi, allez ou même, pour avancer tous nos problèmes. Moi n'allais faire mi savoir, là où moi la quitte le bébé. La case les vides, il est parti, finalement il est dans mon lit. Li au garde à moi et lui dit, écoute à moi, donne le nougat. Les dans la cuisine à côté. Mais ça va et puis m'y retourne. M'y enfile un paletot pour aller. Pour pas qu'il moi les kitouni. Et m'y saute dans l'escalier. Et m'y traverse la ville à pied. En courant comme un condamné. M'y arrive enfin, c'est un dallon. M'y tape 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 sous son balcon. M'y ouvre la porte et lui dit à moi. Assise à où donne le nougat. Assise à où donne le nougat. La déboule c'est Marina. Pourtant les plisses qu'un cerf pour moi. Y'a ça va moi tout de suite à boire. Moi la raconte à l'histoire. Il la dit à moi ou la fait quoi. Moi la donne à l'île au nougat. La timi fait un gros pétard. Et parti pour monter l'ima. Il dit à moi mi savent mi être quoi. Moi aussi mi veux du nougat. Moi aussi mi veux du nougat. Moi aussi mi veux du nougat.
Le nougat, c'était Bonbon Vaudou sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Biotine, c'est l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. La rediffusion le mardi matin à 10h. Vous nous écoutez sur la bande FM, hein, dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, 94.9 sur la bande FM et graphite.net sur internet en direct ou les rediffusions ou également les podcasts que vous pouvez récupérer sur le site internet. Alors, comme on parlait de climat, hein, quelque part, dans cette émission, je cherchais, pendant le titre que l'on vient d'écouter, quelques articles en lien avec le climat et notamment cet article de Futura Science qui parle du plus grand iceberg du monde qui a changé de couleur et c'est très mauvais signe. L'iceberg A23 s'est détaché de l'Antarctique, c'était il y a 40 ans, en 1986. Un bloc de glace immense qui est resté pendant plusieurs décennies l'un des plus grands que les scientifiques ont eu l'occasion d'observer. Et au moment où il s'est détaché, ce iceberg A23 mesurait presque la moitié de la superficie de la Corse, pas loin de 4000 km². Et depuis, il a vécu bien des aventures. En fait, on a eu des images très récentes. C'était en décembre dernier, au lendemain de Noël précisément. Le satellite Terra de la NASA envoie finalement une image qui ne laissait rien présager de bon pour cet iceberg. On a donc utilisé un dispositif particulier d'imagerie à haute résolution à bord donc de cette mission et qui montrait en fait sur cet iceberg un changement de couleur. Il était blanc, blanc glacé, on va dire, blanc iceberg. Il a viré au bleu. Alors, maintenant, l'iceberg, il est aussi grand que la ville de New York. C'est-à-dire qu'on est passé de 4000 à 1100 km², donc il a quand même pas mal fondu. Et donc, ces premières images qu'on a eues le montraient de plus en plus bleu. Un phénomène qui a été confirmé également, toujours fin décembre, par une photo prise depuis la Station spatiale internationale. Dans un communiqué de la NASA, Ted Scambos, qui est chercheur à l'université du Colorado aux États-Unis, présente ces zones bleues et pâteuses, dit-il, comme probablement le résultat de phénomènes de désintégration en cours. Le poids de l'eau de fonte s'accumule dans les fissures de la glace et les force à s'ouvrir. Et donc sur le bord de l'iceberg, il y a une fine ligne qui demeure blanche et formant comme un motif en rempart et en douve dû à la courbure vers le haut de la surface de l'iceberg lorsque ses bords fondent au niveau de la ligne de flottaison, de quoi retenir l'eau bleue de fonte. Donc cette couleur bleue, eh bien c'est l'eau qui commence justement à s'accumuler. Et on a des petites stries qui apparaissent, enfin des grandes stries qui apparaissent sur les images. Elles semblent liées à des reliefs qui sont creusés il y a des centaines d'années lorsque l'iceberg faisait encore partie de son glacier. Aujourd'hui, eh bien, ces stries dirigent et elles dirigent toujours le flux des eaux de fonte. Et malgré les chutes de neige et la fonte qui a attaqué donc cet iceberg à 23 par le dessous au fil du temps, eh bien, on constate de plus en plus que cet iceberg change de couleur. On arrive peut-être un peu à la fin de cet iceberg. La dernière observation apportée par les chercheurs, c'est une zone blanche sur la gauche de l'iceberg. Elle pourrait correspondre à une région où le poids de l'eau de fonte a percé la glace, ce qui a déversé cette eau à plusieurs dizaines de mètres de profondeur jusqu'à la surface de l'océan. Le tout laisse penser donc que cet iceberg vit désormais ses derniers jours et il ne devrait pas survivre à l'été austral, nous dit-on. Donc c'était le plus grand iceberg du monde et puis maintenant il est en train de fondre comme neige au soleil, entre guillemets. L'image n'est pas glorieuse, bien sûr, mais c'est ce qui est en train de se passer pour cet iceberg. Deux informations qui ne vont pas être nécessairement plaisantes, mais on va quand même parler un petit peu de pollution de deux sortes. Alors, première pollution concerne les microplastiques grâce à une méthode innovante qui permet de détecter des particules de plastique d'une taille aussi réduite que 200 nanomètres. 200 nanomètres, c'est vraiment invisible à l'œil nu, c'est très très petit. Il y a des scientifiques chinois qui ont réussi à quantifier la teneur en microplastiques et en nanoplastiques en suspension dans deux mégapoles chinoises, Guangzhou et Xiang, ce sont donc deux grands mégapoles chinoises. Des microplastiques, ce sont des petits morceaux de plastique qui peuvent être encore éventuellement visibles à l'œil nu et encore c'est très très petit. Des nanoplastiques, maintenant c'est encore beaucoup plus petit, donc totalement invisible à l'œil nu. Mais alors si c'est encore beaucoup plus petit, c'est encore beaucoup plus insidieux. Ces particules de plastique sont exclusivement issues des activités humaines, principalement des transports, des industries et de l'agriculture. Et au fil du temps, le plastique que nous produisons se fragmente et c'est ainsi que se forment donc ces microplastiques et ces nanoplastiques. Pendant le temps, les microplastiques étaient uniquement considérés comme une pollution marine. Mais on sait désormais qu'ils sont partout. Dans cette émission, on en parle assez souvent, parce qu'il y a pas mal d'articles qui évoquent des recherches prouvant qu'il y en a dans l'air, dans l'eau, dans les sols et à l'intérieur même des êtres vivants, bien sûr. Et ces microplastiques interagissent avec chacun de ces éléments. Et lorsqu'ils sont présents en grande quantité, ils peuvent même affecter les conditions météo et à plus long terme probablement le climat, parce qu'ils vont former des noyaux de condensation sur lesquels l'humidité peut s'accrocher. Ça va former des nuages, ce qui peut par extension réfléchir les rayons solaires. On a des répercussions qui sont quand même assez importantes. Si les énormes quantités de plastique présentes dans l'atmosphère peuvent affecter le climat, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que le changement climatique influence la teneur en plastique de l'atmosphère, de l'eau et des sols. Et le bouleversement des conditions météo peut par exemple se traduire par plus de pluie dans certaines zones et cela conduit forcément à davantage de microplastiques retombant au sol et dans les eaux. Et donc l'étude de ces scientifiques chinois, qui a été une étude publiée dans la revue Science Advances, montre que nous avons jusqu'à maintenant largement sous-estimé la présence du plastique dans l'atmosphère et particulièrement au-dessus des grandes villes. La nouvelle méthode de détection donc, de cet institut chinois a révélé des taux de plastique plusieurs dizaines de fois supérieures à ce qui était estimé avant donc dans ces deux grandes villes chinoises qui ont été étudiées. Dans l'atmosphère au-dessus des grandes villes, l'une des causes principales de ce taux élevé de plastique dans l'air est liée à l'abondance du trafic routier. Il y a l'abrasion des pneus sur les routes qui envoie des quantités phénoménales de plastique dans l'air et une partie de ces particules retombe ensuite avec la pluie et la neige et donc ça va contaminer les sols et ça va contaminer les eaux bien sûr. Ce constat nous concerne certainement pas que les grandes villes chinoises. À l'ouest des États-Unis, le microplastique retrouvé sur Terre est issu à 84% de l'abrasion des pneus. C'est ce qu'indiquent les auteurs de cette étude. On n'avait pas nécessairement peut-être fait le lien entre l'abrasion des pneus et les microplastiques présents au niveau des grandes villes. En France, il y a fort à parier que le constat est sans doute le même au-dessus des grandes villes, au trafic routier surchargé comme bien sûr Paris ou Marseille bien évidemment. Donc voilà, c'était une première étude qui montrait un petit peu ce lien de corrélation entre le trafic routier et la présence de microplastiques dans l'air et même un petit peu partout. L'autre article que je voulais évoquer, qui n'est pas non plus nécessairement plaisant, et on en a parlé il n'y a pas très longtemps, ce sont ces polluants invisibles, éternels, les PFAS. Vous utilisez une poêle anti-adhésive, vous portez des vêtements imperméables, vous consommez parfois l'eau du robinet, bien sans le savoir, vous êtes probablement exposé à ces fameux PFAS, PFAS, les PFAS, je vais y arriver, ces substances chimiques qui sont surnommées les polluants éternels, parce que ces substances se dégradent très très lentement et elles sont aujourd'hui au cœur d'une alerte sanitaire préoccupante. Il y a une étude qui a été publiée le mois dernier, en janvier, dans la revue Environmental Research, qui montre qu'elles pourraient, ces substances, multiplier par 3 le risque de maladie du foie chez les adolescents. Et ça, c'est une nouvelle étude qui a fait beaucoup parler. Cette recherche a été menée conjointement par l'école de médecine de l'université d'Hawaï avec un autre centre de recherche qui est spécialisé dans l'étude justement de ces polluants éternels et de leurs effets sur la santé. Ce qui était intéressant, c'était de faire le lien entre les deux. Les chercheurs se sont intéressés à une maladie qu'on appelle la stéatose hépatique ou qu'on appelle aussi le foie gras qui est une pathologie qui touche environ 10% des enfants et jusqu'à 40% des enfants obèses aux États-Unis. L'étude, elle a suivi plus de 250 adolescents et des jeunes adultes qui vivent dans le sud de la Californie. Tous présentaient déjà un risque métabolique accru. Leurs parents étaient en surpoids ou ils étaient atteints de diabète de type 2. Les chercheurs, ils ont mesuré les concentrations de ces polluants éternels dans le sang et ils ont en particulier mesuré deux composés très répandus Et l'état du foie a ensuite été évalué grâce à l'IRM, qui est une méthode de référence pour détecter l'accumulation de graisse hépatique. Donc, chez les adolescents dont le taux de ces composés était deux fois plus élevé que la moyenne, le risque de développer une stéatose hépatique était près de trois fois supérieur. Ce risque augmentait encore chez ceux qui étaient porteurs d'une variante génétique spécifique connue pour fragiliser le foie. Chez les jeunes adultes, certains comportements comme le tabagisme amplifient également l'effet de ces polluants éternels sur le foie. Et donc, pour les auteurs, ces données montrent que la maladie du foie ne dépend pas uniquement de l'alimentation ou du poids. Il y a l'environnement chimique, la génétique et le mode de vie qui interagissent fortement. Et donc, cette maladie de la stéatose hépatique peut évoluer silencieusement pendant des années avant de provoquer de graves problèmes de santé. C'est ce qu'explique Lida Chadzi, qui est directrice au niveau de ce centre de recherche. Réduire l'exposition aux PFAS, donc aux polluants éternels, dès le plus jeune âge pourrait aider à prévenir les maladies du foie plus tard. De son côté, il y a un autre chercheur de cette étude qui rappelle que les adolescents peuvent être particulièrement vulnérables aux effets néfastes des polluants éternels sur la santé, car il s'agit d'une période cruciale pour le développement et la croissance. Il y a plusieurs études cliniques qui ont déjà mis en évidence les liens entre l'exposition des polluants éternels et ces maladies du foie, mais il y a aussi des études qui ont montré d'autres problèmes de santé chez les enfants et les adolescents. Et on rapporte notamment pas mal d'études qui sont finalement assez récentes, elles datent depuis 2 ou 3 ans, mais où on a bien une corrélation entre une exposition au niveau de ces polluants éternels qui sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, donc qui ont bien qui vont agir sur le fonctionnement du corps humain et donc au niveau du système endocrinien d'une façon générale. Et donc le fait qu'ils soient exposés à ces polluants éternels, on a vu qu'il y avait une augmentation des risques de troubles métaboliques et notamment une résistance à l'insuline. Donc il y a bien pas mal de travaux qui, quand on les cumule, nous confirment un petit peu la même chose. Et pour aller plus loin, les chercheurs estiment nécessaire de mener des études prospectives de plus grande ampleur, parce que ces études, là tout à l'heure je vous ai dit que c'était à peu près 250 personnes, c'est pas négligeable bien sûr, mais il va falloir maintenant essayer d'avoir des études de plus grande ampleur en termes de personnes analysées, entre guillemets, et de plus grande ampleur en termes de temps pour avoir également la possibilité de faire des mesures répétées au fil du temps et notamment de l'exposition aux polluants éternels. Alors, ça permettrait justement de mieux comprendre comment l'exposition à ces substances, à différents moments du développement, ont une influence à long terme sur la santé. Ils sont souvent invisibles, en fait, ces polluants éternels, et ils sont omniprésents dans notre quotidien, et donc cette étude rappelle que leur impact sur la santé commence tôt, parfois dès l'enfance, et peut évoluer de façon silencieuse pendant des années. Donc, l'idée, c'est de mieux informer, l'idée, c'est de limiter l'exposition, bon, ça, c'est quand même pas évident, et de renforcer la prévention, ce qui apparaît aujourd'hui comme un enjeu majeur pour protéger, bien sûr, la santé des générations futures. Mais voilà, ces polluants invisibles qui multiplient le risque de maladie du foie chez les jeunes, ça se confirme de plus en plus. Voilà. Oui, je sais, c'était pas plaisant, mais c'est aussi pas mal de... c'est une actualité scientifique et les études en recherche médicale sont aussi importantes. Elles nous perturbent un peu plus parce que ça concerne l'intime, on va dire, bien sûr. Mais voilà, on a de plus en plus de confirmations de choses qui étaient... au départ, des hypothèses ou des suppositions. Allez, on va écouter un petit peu de musique, hein, parce que voilà, ça va peut-être nous rassurer. À tout de suite sur l'antenne de Graphite. Through your heart.
come, girl, you'll run blind. Long is the way to the shore, fast is the flood you long for. Breathe a new ebbing Goliath, sweep it all away.
Long is the line, c'était Swan the Horse sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Guillotine, sur Graphite.
Ah, ça nous a fait du bien, ça. Ça nous a remis un peu, voilà. Ça nous a apaisé, on va dire. Et ce qui va me permettre donc de changer un petit peu de sujet et d'être dans des choses un petit peu plus plaisantes ou dans des choses un petit peu plus optimistes. On va parler d'avions, tiens, avec des chercheurs qui ont fabriqué un composite assez particulier qui pourrait rendre peut-être des avions immortels. Ce sont des composites polymères renforcés de fibres. Ce sont des matériaux qui sont intrinsèquement difficiles à réparer, à recycler. Ils sont utilisés pour construire des avions plus légers, qui sont donc moins consommateurs en carburant, avec donc un impact carbone réduit. Ils sont constitués de couches de fibres de verre ou de carbone qui sont reliées entre elles par une matrice polymère, souvent de l'époxy. Et avec le temps, au bout de quelques dizaines d'années, voire moins, ou à l'occasion d'un choc, il y a des petites fissures qui se forment au sein du composite, qui finit par se cisailler et par rompre. Et c'est à ce phénomène qu'on appelle le délaminage que il y a un nouveau matériau qui a été mis au point par des équipes du département du génie civil de la construction et de l'environnement de l'Université de Caroline du Nord, phénomène à quel ils apportent une réponse avec ce matériau auto-réparateur. Il est proche des composites classiques, mais il présente deux améliorations majeures qui lui donnent une durabilité hors norme. Tout d'abord, il y a un agent de réparation thermoplastique imprimé en 3D qui est appliqué dans le renfort au niveau des fibres, qui crée ainsi une espèce de couche intermédiaire qui rend le composite 2 à 4 fois plus résistant à ce phénomène de délaminage. Ensuite, les chercheurs ils vont intégrer au matériau de fines couches de carbone qui vont devenir très chaude sous l'effet d'un courant électrique. Et donc cette température élevée, elle fait fondre cet agent de réparation qui va pénétrer alors dans les fissures et les micro-fractures qui existent pour pouvoir les colmater, ce qui va permettre de restaurer les performances structurelles justement du composite général. Et le matériau est ainsi amélioré et il pourrait résister à ce phénomène de délaminage pendant 500 ans. Enfin, c'est quand même fascinant. Ça va bénéficier d'une espèce d'auto-réparation. Il va se réparer lui-même tout seul. Et donc, on passe de 500 ans, alors qu'au départ, c'était 30, 40, voire... Enfin, guère plus, en fait, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Et donc, pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont conçu un système de test automatisé qui applique de manière répétée une force de traction à ce composite. Et on va essayer de faire pendant une quarantaine de jours, c'est ce qu'on appelle des essais de dureté et d'endurance. Et on va accélérer un petit peu le processus de vieillissement du matériau pour voir comment il se comporte. C'est ça l'idée. Et justement, avec ce nouveau matériau, eh bien, on a eu des réactions et des résultats vraiment intéressants. Cette méthode, ça permet de déclencher la réparation dès qu'il y a des signes d'usure qui sont constatés. Et donc, grâce à ce nouveau matériau qui se répare un petit peu à la demande, eh bien, on est sur quelque chose de totalement nouveau avec des résultats très prometteurs. Les chercheurs travaillent encore à l'amélioration du processus pour parvenir à de meilleurs résultats, ce qui laisse augurer quand même un prolongement plus que conséquent de la durée de vie des avions. Et potentiellement des éoliennes et des automobiles, parce que ça peut concerner justement les matériaux des éoliennes, le matériau de tous les moyens de transport. Donc c'est une vraie véritable découverte de cette équipe du département du génie civil de l'Université de Caroline du Nord, qui a peut-être inventé les avions immortels. Bon, on caricature un petit peu sur le sujet, mais en tout cas sur le fait d'avoir des avions qui seraient quand même beaucoup plus résistant et qui, tout en gardant une certaine légèreté, c'est ça tout l'intérêt. Donc effectivement, ça serait bien si on aurait quelque chose d'un petit peu plus durable. Autre sujet que l'on va évoquer, tiens, ça va être au niveau des lunettes. J'avais vu cet article que je trouvais intéressant, j'ai pas eu le temps de l'évoquer. Concernant ces lunettes qui vont peut-être enterrer les verres progressifs, pardon, je vais y arriver. Parce que quand on commence à avoir la moitié de la quarantaine, eh bien, il devient nécessaire d'éloigner le smartphone des yeux pour le lire. C'est la presbytie, elle nécessite des lunettes de correction qu'il faut porter dès que l'on souhaite lire et qu'on enlève aussitôt si on veut voir plus loin. Les personnes qui sont concernées savent très bien ce dont je parle. Et pour éviter d'avoir à retirer donc ces lunettes, on peut compter sur des verres progressifs. Ils ont également l'avantage de combiner aussi bien la correction de la myopie, le cas échéant, et puis également la presbytie ou l'hypermétropie. Il faut néanmoins s'y habituer, certains n'y parviennent jamais vraiment. Eh bien, une entreprise, Ixy, qui a une solution qui est plutôt séduisante, puisque ce n'est pas aux personnes qui souffrent d'hypermétropie de faire des efforts, mais c'est aux lunettes de faire les efforts. Pour le moment, il ne s'agit que de prototypes constitués de montures ultra légères, et ces montures, ces lunettes, ont été notamment dévoilées, alors on en a parlé plusieurs fois depuis début janvier, mais c'était à Las Vegas, hein, ce fameux salon de l'électronique. Elles ont été dévoilées, hein, ces lunettes Ixy, qui sont fonctionnelles et qui ressemblent vraiment à des paires de lunettes standards. En fait, au niveau technologique, les verres font l'autofocus eux-mêmes. Ils ajustent tout seuls la mise au point en fonction de ce que vous regardez. C'est un peu comme l'autofocus d'un appareil photo, en fait, mais pour les yeux. Et pour cela, il y a des petits capteurs dans la monture qui envoient une lumière infrarouge invisible vers l'œil et ils vont analyser la réflexion pour savoir à quelle distance vous regardez. Est-ce que vous regardez de près ou de loin ? Donc, ils vont pouvoir identifier cela. C'est ce qu'on appelle le eye tracking et c'est déjà utilisé dans certains casques de réalité virtuelle. La seule différence, c'est qu'ici, la consommation est minimale et que le système est miniaturisé pour des lunettes légères. Ensuite, pour réaliser la correction, eh bien, il faut compter sur des verres à cristaux liquides. Et selon le focus détecté, eh bien, les cristaux liquides se réorientent pour modifier la réfraction du verre et donc modifier la puissance et la mise au point. L'opération se réalise en seulement 0,2 secondes. En moins d'une seconde, il y a déjà la mise au point qui est faite. L'électronique et la batterie sont cachées dans les branches des lunettes et le haut de la monture aussi. L'idée, c'est que les lunettes restent fines et semblables à une paire de lunettes classiques. Effectivement, si vous avez tout un gros dispositif tout autour, ça ne sert à rien. Eh bien non, tout a été miniaturisé. L'autonomie annoncée irait d'une journée à deux jours selon les versions. Et en cas de batterie vide, le verre revient à une correction de base pour la vision de loin. Ce que cela change concrètement, c'est qu'en fait, on n'a plus besoin de cibler une surface du verre pour disposer de la correction adaptée, comme avec des verres progressifs. C'est sur toute la surface du verre que l'on obtient la correction adaptée au point de vision, que ce soit de loin ou de près. Il n'y a pas de canal de vision étroit ni de distorsion sur les côtés. Le seul souci, c'est que pour le moment, cette technologie, elle reste très haut de gamme et donc le prix est assez élevé. Il n'a pas été annoncé encore, mais on ne doute pas du fait que ça va être très cher au départ. Quoi qu'il en soit, cette start-up finlandaise, la start-up XI, prévoit une mise sur le marché grand public l'année prochaine, 2027, si les tests optiques et réglementaires se déroulent comme prévu. Mais donc voilà, on aurait peut-être bientôt ces lunettes qui font l'autofocus toutes seules et qui pourraient donc enterrer les verres progressifs. Écoutez, tous ceux qui portent des verres progressifs sont peut-être enthousiastes et peut-être impatients d'avoir ces lunettes avec eux, ça je n'en doute pas. Allez, on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique et puis d'écouter encore un peu de musique. Tiens, on va écouter Brigitte Fontaine, il y a longtemps que je ne l'ai pas écoutée. Elle est dans la playlist de Graphite qui m'a été proposée, donc on va écouter Brigitte Fontaine. À tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con parce que j'ai raté ma vie. J'ai raté mon évolution spirituelle.
C'était Brigitte Fontaine sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
mais non, Brigitte Fontaine, c'est juste une chanson, c'est juste une fiction, bien sûr. Ça faisait plaisir d'écouter Brigitte Fontaine sur l'antenne de Graphite. Allez, on va bientôt finir cette émission. L'heure passe tellement vite avec votre compagnie qu'il me reste ces deux derniers articles que l'on va évoquer dans cette émission. Alors, on va commencer par celui-ci. Oui, vous entendez mes feuilles. C'est-à-dire que je suis encore resté à l'ancienne. J'ai des feuilles plein le studio de Graphite pour essayer de trouver les meilleurs articles les plus intéressants. Et j'avais envie de parler du soleil qui booste notre cerveau. Il y a des études qui commencent à apporter des précisions sur cela. La lumière du jour, bien sûr, est essentielle à notre santé. Bien évidemment, on sait par exemple que l'alternance entre le jour et la nuit ou la lumière et l'obscurité synchronise notre horloge biologique interne. La production de mélatonine, qui est une petite molécule synthétisée dans notre cerveau et qui facilite notre endormissement, eh bien cette production elle s'accroît ainsi en fin de journée lorsque la lumière s'atténue et elle atteint un maximum vers 3-4 heures du matin, puis elle diminue pour redevenir minimale au moment de se lever. Mais cette lumière naturelle aurait un autre effet moins connu mais particulièrement intéressant sur les performances de notre cerveau. C'est en tout cas ce que suggère une nouvelle étude publiée dans la revue Communication Psychology. Les auteurs, qui sont des chercheurs de l'université de Manchester en Grande-Bretagne, se sont intéressés aux effets bénéfiques de l'exposition à la lumière du soleil sur les fonctions cognitives en conditions réelles, c'est-à-dire en dehors du laboratoire. C'est ça qui est intéressant. Et le docteur Altug Didikoglu, qui est l'auteur principal de cette étude, explique « La lumière est un signal environnemental fondamental qui régit de nombreux processus biologiques chez l'être humain, notamment l'horloge biologique, le sommeil et la cognition. Cependant, malgré les résultats substantiels obtenus dans le cadre d'études de contrôlés en laboratoire, on sait peu de choses sur la manière dont ces effets se traduisent dans des environnements réels où l'exposition à la lumière est dynamique et étroitement liée aux routines quotidiennes. » C'est ce qu'il explique. Et donc, dans une première partie de l'expérience, les chercheurs ont évalué sur une période de 7 jours l'exposition personnelle à la lumière de 58 adultes britanniques qui ne présentaient pas de troubles du sommeil. Les participants portaient au poignet un dispositif de surveillance de l'exposition à la lumière du jour. Et en fait, ça enregistrait en continu la manière dont la lumière influençait leur horloge biologique interne. Grâce à une application qui propose des questionnaires et des tests à faire sur téléphone portable, les chercheurs ont pu recueillir des données sur leur performance cognitive, c'est-à-dire la somnolence subjective, l'intention qui était soutenue, la mémoire de travail, les performances en matière de recherche visuelle. Et ils ont tenté d'évaluer s'il existait des liens entre ces performances cognitives et différents aspects de l'exposition à la lumière, c'est-à-dire une intensité de la luminosité dans les 30 minutes à 2 heures précédant chaque test, calculer la luminosité globale de la journée, les périodes les plus sombres, la régularité ou l'irrégularité de l'exposition quotidienne à la lumière naturelle. Donc effectivement, on n'est pas dans des conditions de laboratoire, on est dans la vraie vie, entre guillemets. Et donc, les paramètres sont un petit peu plus aléatoires. Et donc, ils ont pris ça en considération. Résultat, eh bien, il apparaît que la fréquence de l'exposition à la lumière, tout comme le moment où a lieu cette exposition, influence de manière significative la vigilance et la vitesse cognitive. Par exemple, quand une exposition à la lumière avait été réalisée dans les 30 minutes à 2 heures précédant un test, les résultats concernant la diminution de la somnolence et la rapidité des temps de réaction étaient nettement meilleurs, et ce d'autant plus que l'exposition était récente. Autre exemple, ceux qui s'exposaient globalement davantage à la lumière du jour avaient des temps de réaction plus rapides lors des tâches de vigilance et faisaient moins d'erreurs lors des tests mesurant la mémoire de travail ou les capacités de recherche visuelle. Et ceux qui avaient une exposition moins fragmentée, eh bien, ils commettaient moins d'erreurs liées à l'attention et étaient capables de se concentrer plus longtemps. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'explique donc ce chercheur. Nos résultats montrent qu'en dehors des conditions contrôlées en laboratoire où les participants poursuivent leur routine quotidienne, l'exposition récente et à long terme à la lumière influence positivement les performances cognitives. Les effets bénéfiques étaient associés à une lumière vive à court terme et à des habitudes d'exposition à la lumière caractérisées par des journées plus lumineuses, des couchers plus tôt et une plus grande régularité dans l'exposition à la lumière. Ils ont fait une deuxième partie de l'expérience. Cette fois, elle a été menée en laboratoire et les chercheurs, ils ont essayé de comprendre comment la lumière pouvait modifier le fonctionnement cognitif. Et ils se sont intéressés à un système non visuel de détection de la lumière par le cerveau. Et ce système, il est piloté par des cellules photosensibles qui sont au niveau de la rétine. Et l'idée, je voulais essayer de voir un petit peu s'il y avait une corrélation. Alors, les résultats n'ont pas permis de prédire comment la lumière affecte les performances cognitives dans la vie quotidienne. Donc, il y a encore d'autres études qui vont être obligées d'être menées pour comprendre quels mécanismes au niveau des cellules et même au niveau des molécules sont en jeu dans ce phénomène. Mais les résultats de ces travaux n'en sont pas moins passionnants parce que donc, le chercheur Altug Didikoglu explique: ces améliorations des performances cognitives peuvent avoir des implications pratiques pour la santé, la sécurité et l'efficacité au travail, en particulier dans les lieux de travail peu éclairés pendant les longues heures de travail ou les quarts de nuit. Donc effectivement, l'exposition au soleil booste notre cerveau, mais seulement si on le capte au bon moment. Et c'est des études qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent avoir une influence vraiment importante sur notre avenir. Bah, je vois qu'il est déjà presque la fin de cette émission. Est-ce que j'ai le temps d'évoquer ça ? Non, bah, écoute, on évoquera peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire une thématique au niveau de l'intelligence artificielle, encore, je dirais, mais parce qu'on voit très bien que c'est l'actualité scientifique du moment. On va parler d'Elon Musk qui va faire entrer dans les systèmes classifiés du Pentagone l'intelligence artificielle. Il y a des illusions d'optique qui nous trompent, nous, parfois humains, on le sait, et qui trompent aussi les intelligences artificielles. Et ça pose une question vertigineuse. Et puis aussi cette alerte sur des urgences qui sont mal détectées, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui interrogent l'intelligence artificielle sur leur santé, et les répercussions sont parfois assez dramatiques. Et bien écoutez, on évoquera tout ça la semaine prochaine, ainsi que cet article où on verra que dans la station spatiale internationale, il y a des virus et des bactéries qui sont en pleine mutation, et ça pose aussi question. Donc on voyagera également la semaine prochaine pour la prochaine émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur 94.9, tant que j'aille me coucher, 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct, et puis vous avez aussi les podcasts que vous pouvez récupérer sur le site internet. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve samedi prochain. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. À bientôt, au revoir.